Vous avez peut-être suivi ces dernières semaines aux actualités l'affaire dite Troadec. Les médias en ont beaucoup parlé. C'est cette famille qui a été assassinée en Bretagne. Une histoire terrible. Et peut-être vous avez entendu parler du motif de cette sombre histoire. Pourquoi le beau-frère du père de la famille a-t-il commis ces meurtres? Vous avez entendu la raison qui a été avancée par les médias? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces quatre meurtres? Pour une histoire d'argent, une histoire d'or, apparemment, de l'or caché, de l'or que le père avait, semble-t-il, volé à sa propre mère et qu'il avait gardé pour lui-même, en secret, sans le partager avec la famille. Et le beau-frère a tué tout le monde, avec l'espoir de récupérer l'argent ou pour se venger de ce qui paraissait pour lui être une injustice. C'est donc une histoire de jalousie familiale et financière qui semble être à l'origine de ce terrible drame. Pourquoi est-ce que je relève ce fait divers? Parce qu'il nous montre ou qu'il nous rappelle, si nous en avions besoin, jusqu'où l'être humain pécheur peut aller dans l'attachement à un bien matériel. On est prêt à tuer des gens, même de sa propre famille, quand on a le sentiment d'être privé d'argent. Alors Dieu merci, tous ceux qui se sentent privés d'argent ne commettent pas un meurtre, n'est-ce pas? Sinon, il n'y aurait peut-être plus personne sur cette terre. Cette histoire est heureusement exceptionnelle. Mais le fond de l'histoire, la soif de posséder, la convoitise, c'est une tentation que nous connaissons tous, à un degré ou à un autre, et même quand nous sommes chrétiens. L'Église du premier siècle a elle-même été confrontée à une situation exceptionnelle et dramatique. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, où nous allons reprendre ce matin notre série de prédications sur le thème de notre année, Vous en êtes témoin. Nous parlons du témoignage cette année. Et nous prêchons un dimanche par mois sur le début du livre des Actes des Apôtres. Et le passage que nous allons lire dans quelques instants se situe entre deux moments où les apôtres sont convoqués par les autorités juives. Le passage que nous allons lire se trouve à la fin du chapitre 4 et au début du chapitre 5 dans le livre des Actes. Actes, chapter 4, verse 32. Ça, c'est la traduction pour nos amis américains. Et on pourrait même dire que le texte que nous allons lire ce matin vient comme une conséquence de la première comparution des apôtres devant les autorités, et aussi comme une conséquence de la prière qui a été formulée par les apôtres lorsqu'ils ont été relâchés avec un petit groupe de croyants. Ils prient pour que Dieu leur donne d'annoncer la parole avec assurance. Et quand ils ont prié, chapitre 4, verset 31, le lieu où ils étaient assemblés se mit à trembler, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dieu a répondu à leur prière. Ils annoncent la parole avec assurance. Et dans les versets qui suivent et que nous allons lire maintenant, il est question de l'unité de l'Église, de la puissance du témoignage des chrétiens et de la solidarité matérielle qu'il y a dans cette Église. Et donc, Luc va développer ce qu'il avait déjà annoncé dans le chapitre 2 et au verset 44, il disait: Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et maintenant, le texte que nous allons lire est comme un zoom sur ces deux versets, un développement de ces deux versets pour dire, mais alors qu'est-ce que c'est cette solidarité dans l'Église naissante? Comment les chrétiens s'aident-ils financièrement? Lisons donc Actes chapitre 4 à partir du verset 32 et je lirai jusqu'au chapitre 5 verset 11. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'ont distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit « Comment avez-vous pu vous accorder pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront toi aussi. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Un épisode qui suscite quelques étonnements, quelques questions. Le thème de la prédication ce matin est le suivant. Le témoignage dans la communauté, l'impact de la résurrection du Christ sur notre attachement à l'argent. Je répète, notre témoignage dans la communauté, l'impact de la résurrection du Christ sur notre attachement à l'argent. Notre passage est en 3 parties. Et donc, ma prédication va suivre ces 3 parties. Les premiers versets posent le principe de la solidarité entre chrétiens dans cette jeune église. Ensuite, il y a 2 exemples de mise en pratique ou de non-mise en pratique de ce principe de solidarité. Il y a l'exemple de Joseph, surnommé Barnabas, un exemple positif, un bon exemple, et il y a un exemple négatif, un mauvais exemple, celui d'Ananias et Saphira. Et nous allons suivre ces 3 temps. D'abord, quel est le principe de la solidarité de ces premiers chrétiens? Dans ce texte, il y a une chose qui m'a particulièrement saisi et que je souhaite vous transmettre ce matin. Évidemment, il y a le drame d'Ananias et Saphira. C'est quand même une histoire terrible. Et la lecture de ce texte a probablement fait pour vous écho à ce drame que j'ai évoqué en introduction, même si les circonstances sont complètement différentes. Je reviendrai dans un instant sur la mort d'Ananias et Saphira. Mais ce n'est pas cela le cœur du texte. L'histoire d'Ananias et Saphira nous est racontée pour illustrer quelque chose. De même que l'exemple de Barnabas nous est raconté pour illustrer quelque chose. On a là deux exemples, un exemple positif, un exemple négatif, qui viennent illustrer un principe de solidarité qui s'exprime dans les premiers versets de notre passage. Relisons-les ensemble. Verset 32. La multitude des croyants n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme, unité dans l'Église. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux, partagé. Maintenant, écoutez bien. Avec une grande puissance, verset 33, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, les apôtres et toute la communauté. On prêche la résurrection du Christ, il y a une grâce qui repose sur la communauté, et, verset 34, il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Quel rapport y a-t-il entre la résurrection de Jésus, la grâce que Dieu accorde à l'Église et la solidarité matérielle qui s'exerce et qui fait qu'il n'y a pas de pauvres dans cette Église? C'est ça qui m'a interpellé dans ce texte. Ce n'est pas seulement la solidarité et la mort violente d'Ananias et Saphira, c'est quel est le lien entre ces choses-là et la prédication de la résurrection de Jésus, ou le témoignage de la résurrection de Jésus. D'où le titre de cette prédication, le témoignage dans la communauté, l'impact de la résurrection du Christ sur notre attachement à l'argent. Le principe de solidarité ici, c'est que ceux qui ont des biens et qui décident de les vendre, parce que ce n'était pas obligatoire, ceux qui ont des terrains, ceux qui ont des maisons, probablement des maisons secondaires, ils n'ont certainement pas vendu leur maison pour aller dormir sous un pont. Ils vendent, donc ceux qui décident de vendre ces biens donnent le fruit de la vente pour aider les membres de la communauté qui sont plus pauvres. Et ce principe de vie communautaire témoigne de la résurrection du Christ. Question, pourquoi? Il me semble que c'est parce que la résurrection du Christ annonce un temps où il n'y aura plus de pauvreté. Un temps où il n'y aura plus d'injustice. Un temps où le mal aura disparu, où on ne souffrira plus de la faim ni de la soif, où on ne manquera pas d'argent parce qu'on jouira pleinement et pour l'éternité de la présence de Dieu qui comblera tous nos besoins et tous nos désirs. Nos corps ressuscités dans l'avenir seront notre corps restauré. Et donc, lutter contre la pauvreté aujourd'hui, comme à l'époque des apôtres, lutter contre la précarité humaine, c'est une façon d'annoncer la résurrection de Christ. On a annoncé tout à l'heure, pour le 26 mars, la journée du sel et notre assemblée générale de Synergeia. Je vous invite à répondre présent à cette journée. Le SEL, le service d'entraide et de liaison, une des associations avec laquelle nous essayons de travailler depuis quelques années et qui œuvre pour que la pauvreté la précarité recule dans notre monde, parce que ce n'est pas normal. Eh bien, je vous invite à répondre présent à cette occasion et à venir à l'Assemblée générale de Synergeia, notre association socioculturelle, pour participer activement à cette réflexion et aux décisions qui seront prises. Depuis le début du livre des Actes, les apôtres prêchent la résurrection du Christ. Quelques exemples. Au chapitre 2 et au verset 32, nous lisons « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins, c'est Pierre qui prêche aux pèlerins venus à Jérusalem. » Acte 2, la Pentecôte, l'Esprit qui descend sur les apôtres et Pierre qui prêche la résurrection de Christ. Un petit peu plus loin, au chapitre 3 et au verset 15, il dit aux témoins de la guérison d'un boiteux, on a vu ça il y a quelques dimanches dans une autre prédication, le même Pierre qui dit au verset 15, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Toujours notre thème de l'année, vous en êtes témoins, témoins de la résurrection. Au chapitre 4 et au verset 9 et 10, chef du peuple et anciens, la Pierre, encore lui, s'adresse aux responsables du peuple qui les ont convoqués pour leur dire « Eh oh, ce Jésus ressuscité, c'est n'importe quoi !» Les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et eux, ils annoncent que Jésus est ressuscité. Et Pierre leur dit, chapitre 4, verset 9, « Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. » La guérison de cet infirme est un signe qui annonce la résurrection. Un jour, nos corps ne souffriront plus. Un jour, nos corps ne tomberont plus malades. Aujourd'hui, nous souffrons encore dans notre corps, n'est-ce pas? Mais un jour, ce sera terminé. La résurrection de Christ annonce ce temps-là. Notre manière de vivre témoigne ou ne témoigne pas de la résurrection de Christ. Notre texte de ce matin, chapitre 4, verset 33. « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun pauvre. » Lien entre la résurrection de Jésus et la vie chrétienne solidaire. Alors Luc nous donne deux exemples de mise en pratique de ce principe de solidarité. Et je vous propose de commencer par le mauvais exemple, pour finir par le bon exemple. L'exemple d'Ananias et Saphira. Chapitre 5, verset 1. « Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi ?» Pardon. « Et après le prix de la vente, n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Et Ananias tombe et meurt. Et puis ensuite, ce sera pareil pour sa femme, Saphira. Nous avons là le premier événement dramatique de la vie de l'Église naissante. Il y avait juste avant les persécutions des autorités, mais ça c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, n'est-ce pas? Là, le problème vient de l'intérieur de la communauté chrétienne. C'est un contre-témoignage interne. Je vous fais remarquer, en passant, que Luc, l'auteur, ne dit rien concernant la foi d'Ananias et Saphira. On pourrait penser, vu leur attitude, qu'ils ne sont pas vraiment des chrétiens, qu'ils font partie de la communauté comme ça, mais que ce ne sont pas des vrais chrétiens. Mais Luc ne le dit pas. Ça me rappelle d'autres événements de ce genre dans l'histoire d'Israël. Par exemple, Lévitique, chapitre 10, Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, que Dieu met à mort parce qu'ils apportent une offrande qui n'est pas prescrite. Dieu vient juste de donner les règles du sacerdoce, mise en place des prêtres, Aaron le grand prêtre, les fils du grand prêtre qui désobéissent et qui meurent sur le champ. C'est terrible. Josué chapitre 7, un dénommé Achan qui est mis à mort avec toute sa famille parce qu'il a caché une partie du butin de la bataille de Jéricho. Vous vous souvenez de cet épisode? Juste après l'entrée en Canaan, le peuple entre en Canaan sous la conduite de Josué, Moïse est mort, Josué fait entrer le peuple en Canaan et il y a la prise de la ville de Jéricho. Et un homme du peuple prend une partie du butin et le cache. Et c'est tout le peuple qui subit un fléau. Actes chapitre 5, notre passage. Ananias et Saphira qui cachent une partie de leur argent pour eux-mêmes et qui meurent sur le champ. C'est terrible quand même. Trois situations, on pourrait certainement en trouver d'autres, où Dieu intervient en faisant mourir des membres de son peuple pour inspirer la crainte, c'est-à-dire le respect de sa parole, et permettre à son peuple de garder la bonne direction concernant l'obéissance. Des épisodes dramatiques qui doivent aussi nous inspirer la crainte de Dieu. Vous avez vu ce mot crainte qui vient deux fois dans le texte. Verset 5, une grande crainte saisit tous les auditeurs après la mort d'Ananias. Verset 10, une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses après la mort d'Ananias et Saphira. Quand on parle de crainte ici, il ne s'agit pas de vivre dans la peur de mourir sur le champ à chaque fois que nous désobéissons à Dieu. Il s'agit de nous souvenir que Dieu est saint et que par conséquent, il attend de nous la sainteté, y compris dans la gestion de nos finances. J'ai cru comprendre que le groupe de jeunes s'est réuni hier soir sur le thème de la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, ce que Dieu veut, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est votre sainteté. Ou dans certaines traductions, c'est votre sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est être saint. C'est faire ce qui est bien aux yeux de Dieu et rejeter ce qui est mal. Vous serez saints, dit le Seigneur, car je suis saint. C'est un refrain qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Eh bien, c'est un refrain qui ne change pas dans le Nouveau Testament. Vous serez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Qu'est-ce qui est mal dans notre texte là, d'Acte 5? Quel est le problème dans la démarche d'Ananias et Saphira? Ce n'est pas de ne donner qu'une partie de la vente de leur propriété. Le problème, c'est de faire croire que la somme d'argent qu'ils apportent représente la totalité de la vente de leurs biens. Vous voyez? Le problème, c'est l'hypocrisie, le mensonge. Imaginons qu'Ananias et Saphira aient vendu leur propriété 200 000 euros. Ils apportent 100 000 euros aux apôtres. Et ils disent, ils prétendent qu'ils ont vendu leur propriété 100 000 euros et pas 200 000 euros. C'est ça le problème. C'est de vouloir cacher ce qu'ils gardent en disant, ça c'est à nous, pas à Dieu. Remarquez que Ananias et Saphira n'étaient pas obligés de vendre leurs biens, ni de donner tout l'argent de leur vente. L'apôtre Pierre est très clair. Relisons le verset 4. Il dit à Ananias, « Lorsque tu avais l'argent, n'était-il pas à toi ?»« C'est ton argent, mon gars. Tu es responsable et libre de faire ce que tu penses être juste de faire avec cet argent. » Et il ajoute, « Et après avoir vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ?» Donc, un, tu n'étais pas obligé de vendre. Deux, après avoir vendu, l'argent que tu as reçu, il est à toi, tu le gères. Pourquoi en cacher une partie? Si Ananias et Saphira avaient dit, nous avons vendu notre terrain 200 000 euros, nous donnons 100 000 euros à l'église et nous gardons le reste, il n'y aurait pas eu de problème. Le problème, c'est de dire, le problème, c'est le mensonge. Le problème, c'est de vouloir donner l'image de gens généreux aux yeux des frères et sœurs, alors qu'en fait, ils sont calculateurs. Ils pensent d'abord à leur propre intérêt financier, à ce qu'ils vont pouvoir mettre de côté et pas trop donner. Et c'est en cela que Satan a rempli leur cœur. Vous voyez cette expression de Pierre ? Ça ne veut pas dire que Ananias et Saphira sont possédés par le diable et donc ne sont pas chrétiens. Ça veut dire, me semble-t-il, que en étant ainsi attachés à l'argent, ils manifestent qu'ils sont encore soumis à la puissance du diable. Ils sont esclaves de leur argent. Ils pensent maîtriser leurs finances en mettant des sous dans leur épargne, mais en fait, ils se laissent dominer par l'argent. Et ça, c'est diabolique. Le principe financier de ces premiers chrétiens, regardez, ce n'est pas le communisme. Le communisme, c'est l'abolition de la propriété privée. Le principe financier de ces premiers chrétiens, c'est la communauté, pas le communisme. C'est l'abolition de la propriété privée égoïste. Chapitre 5, verset 4, encore une fois. « Lorsque tu avais cet argent, ne demeurait-il pas à toi ?» Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Lorsque tu avais cet argent, n'était-il pas à toi? Propriété privée. Comment as-tu mis en ton cœur pareille action? Propriété égoïste. L'exemple d'Ananias et Saphira nous montre de manière dramatique un sens de la propriété égoïste et hypocrite. Et ils sont sévèrement sanctionnés pour leur attitude. Alors la question qui se pose pour nous, ce n'est pas comment échapper à la punition divine, nous aussi. C'est plutôt comment honorer Dieu dans nos finances. Et j'aimerais maintenant que nous nous tournions vers l'exemple de Barnabas, une toute autre démarche. Relisons ensemble les versets 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. J'aimerais faire trois remarques concernant l'exemple de Barnabas. Je note qu'il est surnommé Barnabas. Il s'appelle Joseph. Joseph, c'était un prénom assez courant. Et il est surnommé Barnabas, ce qui se traduit par fils d'exhortation, fils d'encouragement. Surnommé, ça veut dire qu'il avait une réputation dans l'Église, et en particulier auprès des responsables de l'Église. Il est connu par rapport à certains traits de son caractère. Et ce qui marque les responsables, et peut-être toute l'Église, c'est qu'il est une source d'encouragement. Je remarque qu'il n'y avait pas de surnom pour Ananias et Saphira. On peut même penser que Pierre était au courant de la fraude, puisqu'il sait qu'Ananias a retenu une partie du prix. Vous avez vu ça au verset 3, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit-Saint et de retenir une partie du prix du champ ?» Alors peut-être que Pierre a eu une illumination soudaine, que l'Esprit-Saint lui a dit, lui a révélé des choses, mais on peut aussi penser que l'attitude d'Ananias et Saphira a été connue dans l'Église, et que Pierre, les responsables, ont été au courant de leur manœuvre et ont dénoncé publiquement cette manœuvre. Pas de surnom donc pour Ananias et Saphira, mais un surnom pour Barnabas, parce qu'il a une bonne réputation. Il est surnommé, deuxième point, fils d'encouragement. Barnabas est connu pour être une source d'encouragement pour tous. Alors, certains ont la chance d'avoir un prénom qui les dispose à certaines, à certaines choses. On a un Barnabas dans l'église. Moi, c'est Silas, tu vois, Sylvain. Bon, voilà, c'est une chance que nos parents nous ont donnée. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop lourd à porter, mais voilà. Nous portons aussi un nom, hein, un nom qui veut dire quelque chose. Barnabas, le surnom qui est donné ici à Joseph, veut dire fils d'encouragement. Alors je reviens à la question de fond que je posais tout à l'heure. Quel est le rapport entre la résurrection de Jésus et notre gestion financière? Et l'exemple de Barnabas nous montre ici comment vivre dès maintenant la réalité de notre nouvelle naissance chrétienne. L'exemple de Barnabas nous invite à vivre non pas d'abord pour le monde présent, dont le Dieu est l'argent, mais pour le monde à venir. En tant que chrétiens, nous sommes citoyens célestes et nous appartenons au Seigneur Jésus ressuscité. Le même Pierre qui parle ici, qui prêche dans le livre des Actes des Apôtres, en tout cas dans la première partie du livre, dira dans sa première lettre, quelques années plus tard, les versets suivants, les paroles suivantes. Écoutez bien, je vous donnerai la référence après. Si vous invoquez comme Père, comme on a chanté tout à l'heure, Père, Père, Père. Si vous appelez Père celui qui, sans favoritisme, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, Jésus par ton sang précieux, c'est ça qu'on a chanté, hein, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, au moment prévu, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu, pas dans votre épargne. Ce qui m'amène à la question suivante. Sommes-nous une source d'encouragement pour l'Église par notre manière de gérer nos finances? Sommes-nous, comme Barnabas, une source d'encouragement pour l'Église par notre manière de gérer nos finances? Nous aurions pu chanter ce matin un chant que nous aimons bien chanter, qui s'intitule « Nous voulons vivre l'unité ». Et nous avons lu, au début de notre passage, qu'il y a de l'unité dans cette Église. Chapitre 4, verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru ne formait qu'un seul cœur et qu'une seule âme ». Et nous pouvons chanter dans ce sentiment-là que nous voulons vivre l'unité. Mais nous voyons dans le texte qui nous occupe aujourd'hui qu'il y a un lien entre l'unité des croyants et l'intégrité financière. Et donc, notre passage de ce matin nous donne l'occasion non seulement de chanter des vœux pieux, nous voulons vivre l'unité, mais aussi de les mettre en pratique. Comment ? Non seulement en ayant le noble sentiment de l'unité, mais de manière très pratique. Nous sommes unis lorsque nous sommes clairs devant Dieu et devant les hommes en ce qui concerne notre rapport à l'argent. Troisième remarque concernant Barnabas. Barnabas dépose l'argent de sa vente aux pieds des apôtres. Vous avez remarqué cette expression ? Elle revient plusieurs fois dans le texte. Au verset 34 et 35, « Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. » Ça, c'est le principe général. Tous ceux qui veulent, tous les membres de l'Assemblée font cela. Et puis après, on a deux exemples, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon, un mauvais. Barnabas, le bon exemple, verset 37, « vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Et nous avons aussi un mauvais exemple, celui d'Ananias et Saphira. Et quand Ananias vient, que fait-il ? Il apporta l'autre partie, celle qu'il a, pas celle qu'il a gardée, et la déposa aux pieds des apôtres. Exactement pareil qu'Ananias, exactement pareil que les autres membres de la communauté. Et il y a encore une fois où les pieds sont mentionnés. Il y a une histoire de pieds dans ce texte. Où est-ce que les pieds apparaissent encore ? Quand Ananias meurt, il tombe aux pieds des apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, je remercie Robert Souza, qui, dans son commentaire sur les actes, m'a inspiré les remarques qui suivent. L'expression « aux pieds des apôtres » implique que l'argent déposé n'est plus « mon argent », mais l'argent du Seigneur ou de l'Église, représenté par les apôtres. Celui qui est « aux pieds de », c'est le disciple. Et donc, quand les gens viennent déposer leur argent aux pieds des apôtres, ils déposent un argent disciple. D'accord ? Le problème chez Ananias et Saphira, c'est qu'en apparence, ils déposent l'argent aux pieds des disciples, mais dans leur cœur, l'argent est resté le maître. Alors j'en tire la conséquence suivante. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Peut-être certains auront reconnu une phrase des Inconnus dans un sketch sur les sectes. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. C'est Skippy le gourou. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis, c'est-à-dire pour nous retirer tout notre argent. C'est de l'humour. Il faut prendre ça au deuxième degré. Donc dans le sketch des Inconnus, il y a un jeu de mots, voilà, sur l'argent qui est donné au gourou de la secte. Mais remarquez que dans notre texte, l'argent n'est pas donné aux apôtres. L'argent est déposé à leurs pieds. Le texte ne dit pas que l'argent est donné aux apôtres ou dans leurs mains. Il est déposé à leurs pieds. Il y a là une question de soumission à une autorité, les apôtres, mais qui représente une autorité divine. Et donc, le principe biblique est là, et le problème chez Ananias et Saphira, c'est qu'ils sont retenus esclaves par ce qu'ils croient détenir. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Ils pensent maîtriser l'argent qu'ils ont mis de côté, alors qu'en fait cet argent est leur maître, et ce maître fait concurrence à Jésus ressuscité. Ce texte vient donc nous questionner, chacun, dans notre allégeance financière, et pose la question, qui est notre maître ? Jésus ou l'argent? Alors on aura tendance à dire Jésus, n'est-ce pas? Mais dans le très concret de notre quotidien financier, notre situation est-elle toujours si claire devant Dieu et devant les autres? Que penser du travail au noir, par exemple? C'est une pratique très courante en France. Cela représente peut-être d'ailleurs une partie de vos revenus aujourd'hui. Est-ce que c'est juste devant Dieu? Comme son nom l'indique, le travail au noir est un travail dans l'ombre. Or, nous avons lu que ce qui est caché est potentiellement source de mensonges et d'hypocrisie. Toute rémunération non déclarée est-elle une désobéissance devant Dieu? Je ne sais pas si on peut l'affirmer, mais le texte de ce matin, la parole de Dieu, nous invite à la clarté. Si nous travaillons de manière déclarée, nous pouvons refuser de travailler au noir. Si nous percevons une rémunération non déclarée, quelle qu'en soit la raison, cherchons à régulariser notre situation financière. Prions et agissons pour que cette situation change. Ne laissons pas nos finances apporter un contre-témoignage dans notre vie chrétienne et dans l'Église. Et s'il fallait pour cela gagner moins d'argent, eh bien, gagnons moins d'argent. Ce que Dieu veut, c'est notre sainteté, pas nos heures supplémentaires. Je vous fais remarquer qu'une situation financière claire nous permet d'éviter de mentir aux impôts. Si une partie de mes revenus de l'année 2016 ne sont pas déclarés et que les impôts me demandent, via la feuille d'imposition, si j'ai bien gagné telle somme d'argent, je suis dans une situation où je ne peux que mentir pour préserver mes revenus cachés. Comme Saphira, je relis la question de Pierre au verset 8. « Dis-moi, dit-il à Saphira, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » « Dis-moi, en 2016, as-tu bien gagné telle somme d'argent ?»« Oui, répondis-je, j'ai bien gagné telle somme d'argent. » C'est exactement la même chose. Exactement le même principe. Il y a 2000 ans d'écart, n'est-ce pas ? Le principe est le même. Si je déclare aux impôts avoir gagné 20 000 euros en 2016, alors qu'en fait j'en ai gagné 10 000 de plus en cachette. Ne suis-je pas en train de mentir au Saint-Esprit? Alors je peux chanter avec ferveur que nous voulons vivre l'unité des chrétiens. Mais je reste un hypocrite si je ne mets pas en règle mes finances devant Dieu et devant les hommes. Suivons plutôt l'exemple de Barnabas. Sachons nous montrer généreux financièrement, lucides sur nos finances, généreux dans l'œuvre du Seigneur. Soyons généreux dans l'offrande, dans notre offrande hebdomadaire, la petite boîte qui est là sur le radiateur. Soyons généreux concernant notre projet bâtiment, et peut-être nous pouvons là aussi dans ce texte trouver d'autres inspirations pour mettre en commun le fruit d'un héritage, de la vente d'un appartement, d'une maison, que sais-je. Montrons-nous généreux via notre association socioculturelle, Synergeia, ou encore en soutenant une association chrétienne. J'ai parlé du service d'entraide et de liaison et de la journée solidaire que nous voulons avoir dans 2 semaines, le 26 mars. Soyons des fils et des filles d'encouragement pour l'Église. Voilà jusqu'où nous a mené ce texte et ce principe financier dans l'Église, principe de clarté et de partage. Vous voyez, c'est très concret de croire à la résurrection et de vivre comme chrétien. Et nous avons besoin de la grâce du Seigneur, la même grâce qui était répandue sur ces premiers chrétiens. Alors, pour terminer, nous allons prier, parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Seigneur notre Dieu, ta parole est parfois dure et tranchante. Et nous avons entendu ce matin plusieurs textes qui sont un peu durs à entendre quand même. Nous avons lu tout à l'heure cette guerre contre les Amalécites, ces massacres, ces moments où tu demandes à ton peuple de trancher, de ne tolérer aucun compromis avec le mal. Et nous avons lu encore dans ce livre des Actes un autre passage dur avec cette mort instantanée d'Ananias puis de Saphira. Et nous avons du mal à comprendre pourquoi tu agis de cette manière. Pourquoi la mort de ces personnes qui étaient peut-être des enfants de Dieu. Nous ne comprenons pas tout, nous ne comprenons pas tout de ta souveraineté, mais notre prière ce matin, c'est que tu aiguises davantage notre sens de la justice financière et de la sainteté. Que ton Esprit Saint nous visite ce matin et nous aide à changer ce qui a besoin d'être changé dans notre rapport à l'argent. Tu sais ce que nous donnons, tu sais ce que nous gardons. Tu connais nos motivations pour donner, tu connais nos motivations pour garder. Et toi seul peux juger de tout. Aide-nous, Seigneur, dans notre relation personnelle avec toi, à mieux gérer notre argent, à donner plus généreusement, à retenir moins. Et ce que nous retenons, à le retenir avec sagesse. Aide-nous aussi dans le partage de nos biens financiers dans la communauté. Aide-nous à compter sur ta grâce. Aide-nous à être généreux. Que ton esprit nous éclaire et nous aide pendant cette semaine à faire le tri avec toi dans nos finances, que nous puissions réaligner nos motivations sur les principes que nous avons entendus de toi ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, parce que nous avons besoin de ton aide. Amen.